In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Et aujourd'hui, à nouveau, rendez-vous avec une autrice et un auteur en résidence à la maison Julien Gracq. En préparant une émission, je cherche toujours le lien qui fera cohérence, qui justifiera la raison même de l'émission, au-delà de la présence d'invités différents. Mais l'exercice peut se révéler artificiel, tant l'écart parfois est grand. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans ce cas de figure. Il y aurait bien le regard que chacun porte sur la nature. Mais ça me semble un peu forcé. Peut-être qu'il me faut être plus humble et me dire que ce qui compte dans cette émission, c'est d'entendre tout simplement des voix. Bonjour Farouk. Bonjour Lou Darsan.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes tous les deux en résidence et l'interview va commencer par vous, Farouk. On est aidé parce que Farouk Seik parle anglais et donc je suis assisté aujourd'hui d'une traductrice. Merci d'avoir de faire ce travail. On va commencer par la première question. Le livre de Luna, Quiet Flows the Yuna, est paru récemment en France. Il vient après Sous pression, recueil de nouvelles sur votre guerre en Yougoslavie pour défendre la Bosnie-Herzégovine. Avec le livre de Luna, vous aviez besoin de retrouver les sensations de votre enfance?
Okay, so with Quiet Flows the Yuna, it has been published recently in France. It is your first book after Under Pressure, a collection of novels about your participation in the war in Yugoslavia to defend Bosnia-Herzegovina. With Quiet Flows the Yuna, was there a need to find your feeling of your childhood again?
So... Quiet Flows the Yuna, it's a novel about childhood, of course, about the period when this my hometown was in the war and after the war. And the childhood is just, I said, it's each episode, each chapter is different. One is... beautiful reminiscence of childhood, and other is like some war picture.
Donc ce livre est par rapport à l'enfance, c'est une période qu'il voulait explorer, c'est avant et après la guerre dans son village, et puis chaque chapitre montre la différence entre la guerre et puis l'enfance.
Luna, c'est la rivière de votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous la décrire?
The Yuna is the river of your childhood. Can you describe it for us?
It's the river, I think, like 200 kilometers long, and it on one part of the stream, it's a border between Bosnia and Croatia. And that's in my city, the river Una is... She makes a lot of streams and a lot of river islands, and the city is on the water. And we, as citizens, we was very close to the river. And the river is, it's a beautiful river. It's green, it's blue, it's transparent. It have the tufa stone. Tufa stone. It's...
Okay.
Yeah, and it's full of various creatures inside, like fishes and others, and plants, and So it's a completely unique living world.
Donc c'est une rivière qui fait à peu près 200 km et qui est la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Et dans mon village qui est sur la rivière, il y a beaucoup de courants et beaucoup d'îles. Et la rivière a beaucoup de couleurs différentes. Elle est verte, elle est grise, elle est bleue, elle est transparente. Et ça, c'est dû à la pierre qui se trouve dans la rivière, qui est le tuf. Et dans cette rivière, il y a aussi beaucoup de poissons.
Luna, c'est aussi la pêche. La pêche, elle revient régulièrement dans ce livre. C'est quoi la pêche pour vous ?
So you talk about fishing a lot in the river. It is often referred to in the book. So what does fishing mean to you?
It means that I was as a small child, I had like fishing rod and a fishing license and all equipment, and as I grew up on one on the one small part of the Una where the house of my grandmother was. So I fish from our courtyard, and everybody in this city, everybody loved to fish, and it's for me it's I can say it's like way of life. It's not like fishing on the sea, on the ocean. It's a different kind of fishing, and even nowadays I'm fishing not on the Una River, on the other rivers in Bosnia. It's like a passion that you can practice this passion all of your life. It's a connection with the nature.
Je pêche depuis que je suis un petit enfant. J'ai une licence de pêche et les équipements qui vont avec. Petit, je vivais dans la maison de ma grand-mère, qui était sur une petite partie de la rivière, et je pouvais pêcher depuis sa cour. En Bosnie, beaucoup de personnes pêchent sur cette rivière. C'est une pêche qui est différente de la pêche qu'on peut faire dans l'océan. Et c'est une pêche qui est très agréable. Et aujourd'hui, je pêche toujours, mais dans une autre rivière. La pêche, ça permet de se connecter à la nature.
C'est ce qu'on entend dans ce livre, c'est ce qu'on lit dans ce livre beaucoup, la proximité avec la nature.
In this book, we can hear a lot about your proximity with nature.
Vous écrivez, je suis le chroniqueur d'un temps disparu, englouti, calciné. Votre pays ne peut plus exister que seulement dans la mémoire.
You wrote in your book, I am the chronicler of a lost, sunken, incinerated age. Does this mean that your country can only exist in memory?
Yeah, we are all existing in somebody else's memory. As I'm writer, I'm happy because I'm writer, because I can use my memory as a tool to reconstruct, to make reconstruction of the time and space that it's not space, time, emotions that was disappeared. So the war is like a giant eraser head, and it erases everything. So after the war, people who survived the war, they must make connection with themselves. I mean, when I said with themselves, it means with themselves in the past. So the memory is the, that kind of a bridge.
On existe tous dans la mémoire des autres. Et un auteur utilise sa mémoire comme un outil. La guerre efface beaucoup de choses et les survivants se connectent à eux-mêmes à travers la mémoire.
Vous vous êtes engagé dans l'armée en 1992. C'était un impératif pour vous de vous engager?
You went to war, you were a soldier. Did you have to or did you choose to be a soldier?
It's a... Answer is yes or no, and no, because we were surrounded from all sides in my part of the country. So you can't escape, you can't go outside. There is no outside because we was besieged. So when they attack our city, I was civilian, like now. But after a few days, I managed to find the weapon and the uniform and everything, because it's not natural that you will defend yourself. Why should somebody wants to expel me from my home, from my flat, from my street, from my part of the city, from my river? It's part of my who am I? It's my identity. And so of course that I will resist. It's unnatural to expect that people will obey to the force, to the will of the other people who thinks that they have right to conquer you, to kill you, to erase you from the history. It's not, we know from the past, from the history, that it can never succeed.
Je dirais que oui et non, mais plutôt non. En fait, j'ai été le lieu où je vivais, la rivière, le village a été entouré et il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Il n'y avait pas de lieu ailleurs, puisqu'en fait, c'était un siège. Donc au début, j'étais un simple civil et puis ensuite, j'ai réussi à trouver des armes. Et quand quelqu'un veut nous expulser d'un endroit qui fait l'identité de quelqu'un, c'est naturel de se défendre contre quelqu'un qui veut prendre contre le droit de chacun d'avoir un lieu où vivre. Quand quelqu'un veut prendre ça, eh bien c'est naturel de vouloir se battre contre cet autre qui veut tout prendre.
I didn't want to be a soldier. It was not my... I didn't choose to be a soldier. I was forced to be a soldier. It's so I was not volunteer. I just it was just matter of survival.
Je ne voulais pas être un soldat. Je n'ai jamais voulu en être un, mais c'était ça n'a jamais été ma volonté, mais je n'ai pas eu le choix d'en devenir un.
Au début du livre de Luna, vous vous accrochez à ses souvenirs d'enfance, à la pêche, aux rêves. Et puis brutalement, la guerre surgit. C'est impossible de retenir ces souvenirs de la guerre. Ils sortent bien que vous ne le vouliez pas.
At the beginning of the book, you hold on to the childhood memories and the dreams, but brutally, war suddenly reappears. Is it because it is impossible to hold back those memories? Does they come out even though you don't want to?
It was my intention to write about war, and I didn't force myself to do that. It was totally natural, you know. It's part of me. It's part of who am I, and it's part of my new identity as a survivor, as a soldier, as an officer, as a poet, as a warrior, writer. So it's I do that with purpose, especially in this book, Suppression, Under Pressure, because this is the pure anti-war book. It's a book of short stories, and they are very direct, brutal, and it's you can, when you read it, you can feel, I hope so, as a reader, you can feel everything what is happening around you, like it's in 3D reality.
C'était très intentionnel dans ce livre de parler de la guerre. C'était pas du tout quelque chose de forcé, puisque c'est une part de qui je suis. Ça fait partie d'une nouvelle identité. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'est pas fait exprès, au contraire, c'est fait exprès. Et dans Sous Pression, donc le recueil de nouvelles sorti avant... avant le livre de Luna, eh bien, ce recueil justement est un recueil anti-guerre, et j'espère que justement ça a été vu comme ça, une espèce de moyen de donner vie à ce que pouvait être la guerre dans son entièreté, en trois dimensions.
Patrick Deville vous compare dans le recueil de nouvelles Sous Pression, paru en 2004 et traduit en français en 2014. À des auteurs comme Henri Barbus ou Roland Dorgelès. Est-ce que vous avez lu ces auteurs?
In the French preface of your collection of novels Under Pressure, It was published in 2014 in France. It was translated in 2014 in France. Patrick Deville compares you to authors such as Henri Barbusse and Roland Dorgelès. Have you read these authors?
Unfortunately, I didn't. But during the war, I was very fond of the poems by Guillaume Apollinaire and Blaise Cendrars, for example. Especially Guillaume Apollinaire, because he had experience of the First World War, and he was wounded in the head. And so I was fascinated with his poems. And one poem was, I have one story here, who is very connected with one poem by Guillaume Apollinaire, and that poem is, it's always begin with the same, like, it was like, there was. There was this and this, that, and there was a blind German soldier in trenches, blah, blah, blah. And so I learned that poems, and it was in my head. It was in my head very, very long time ago. Also, the one poem by Blaise Cendrars and various other French and non-French writers.
Je n'ai pas lu ces auteurs, mais par contre, j'ai beaucoup lu en écrivant sous pression Apollinaire et Cendrars. Par exemple, Apollinaire, il y a un poème qui m'a marqué. Un poème. Apollinaire m'a marqué puisqu'il a été soldat pendant la Première Guerre mondiale. Et je me souviens d'un poème qui commence par l'anaphore il y avait. Et c'est quelque chose qui m'est resté en tête en écrivant sous pression.
Dans les deux livres, vous parlez de Dieu. Et j'aimerais que vous lisiez un extrait que je vous ai soumis. Alors, cet extrait, vous allez lire en bosnien. C'est pour qu'on entende aussi votre langue telle qu'elle se dit.
So you're going to read the book in your language so we can hear your language and hear, experience what it's like, what you wrote in this book.
U strahu stanuje Bog. Ne molim se njemu jer je rat obesmislio njegovo postojanje. On je sada 100% u drugoj galaksiji, siguran i sjeban od usamljenosti. Ne fali mu dlaka s glave. Napravio je sebi grudobran od metalnih planeta, ponovo izvodi eksperiment stvaranja. Samoća je neugodna i on želi da se socijalizuje. Ljudi su mu se zgadili, nije uspio. Digao je užasnu struke od zemljana, slab je to umjetnik, ipak bar im je zlo izmislio.
Alors, ce que vous venez de lire, je vais le lire en français pour que, quand même, tout le monde, parce que ça induit la prochaine question. La peur est la demeure de Dieu. Lui, je ne le prie pas, car la guerre a vidé de son sens l'hypothèse de Dieu. Il doit être maintenant sur une autre galaxie, en sécurité et crevant de solitude. Pas un cheveu de la tête ne lui manque. Il s'est fabriqué un parapet de planètes métalliques. Il remet ça, expérimenter la création. La solitude lui pèse. Il a envie de socialiser. Les hommes se sont dégoûtés de lui. Il a raté son coup. Horrifié, il a baissé les bras, laissé tomber les terriens. C'est un bien piètre artiste. À ceci près qu'il a quand même inventé le mal. Pour autant qu'il ait jamais existé. Dieu revient souvent dans vos textes et Dieu c'est qui pour vous?
So God is often there in your books. So what does God mean to you?
I can tell nothing. I was never a believer and during the war, I became more non-believer. And after the war, I was reading the Holy Bible, the Quran, all the texts from Buddhism, this and that. And, you know, I was trying to find myself in a way. But I read it as a literature. For me, I don't want to offend nobody, but for me, it's like stories. It's fantasy. I mean, it's Borges. Borges said that. Borges said that religion is just a branch of the fantasy. I mean, it's easy when the person is a believer. It's easy to bear with life, with all things that we will endure or encounter through our lives, especially with the loss of the closest friends, families, and relatives. And so, for me, God is. It can be like some kind of idea. And if the believing in God gives other people comfort, then I'm fine with that.
Alors, Dieu ne signifie rien pour moi. Je n'ai jamais été croyant et je le suis encore moins depuis la guerre. Après la guerre, j'ai lu le Coran, la Bible, des livres bouddhistes. Mais je les ai lus comme de la littérature et je ne veux offenser personne en disant cela. Borges a dit que ces livres, c'était de la fantaisie. Et même si je comprends qu'avec les pertes de la guerre, ce soit un confort de croire en Dieu, pour moi, il n'y a pas de Dieu.
La dernière question. Vous êtes actuellement à la maison Julien Gracq et vous travaillez sur quoi ?
What are you working on in your residency at the Maison Julien Gracq?
Before I came here, I finished three manuscripts. One book is already appeared as a book, and here I was writing on one poem, like reportage poem about Berlin, and I also wrote one poem about. My staying there, about my fascination with Loire, River Loire, and some other things that are not so beautiful, not connected with France, actually. And that's it. And also, I'm a journalist, and every month I produce like 4 or 5 texts for the newspaper.
Avant de venir à la Maison Julien Gracq, j'ai écrit 3 manuscrits, dont un qui vient d'être publié. Et j'ai aussi écrit un poème sur Berlin. Et pendant la résidence, j'écris un poème sur la Loire. Et puis régulièrement, tous les mois, j'écris 4 ou 5 textes pour des journaux.
Je vous remercie, Farouk, d'être venu. Je tiens à vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé vos livres.
Thank you, Farouk, for coming here, and he really, really liked your book.
Thank you for your answers.
Et on va faire une pause musicale. Thank you. C'était Murmure qui a interprété Teresa. Vous êtes bien sur Radio G, vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Aujourd'hui, dans le studio, sont présents à nouveau les auteurs en résidence à la maison Julien Gracq, après avoir entendu Farouk Seitch, et dont je vous recommande les deux livres, le livre de Luna et Sous pression, qui sont des livres impressionnants. Et la musique de Murmure, après ça, est presque nécessaire. Donc, après avoir entendu Farouk, eh bien, place à Lou Darsan. Bonjour, bonjour Lou.
Bonjour.
Essayez de parler près du micro. Merci. Vous avez publié deux livres, L'Arraché Belle, en 2020, et Les Heures Abolies, en 2023. Mmh. Un premier roman à 33 ans. L'écriture, ça a mis longtemps à venir chez vous.
Alors, il y a la différence entre l'écriture et l'écriture de roman et le désir d'être publié. Et c'est vraiment des choses très différentes. Donc, moi, j'ai toujours aimé écrire. Mais pendant longtemps, j'ai été libraire. Et j'étais plus consacrée à l'écriture des autres qu'à la mienne. Et puis j'écrivais, mais pour moi. Et vraiment, c'est le désir d'écrire pour être lu qui a mis longtemps à venir, à vrai dire.
Alors, vous voulez dire qu'effectivement, les temporalités sont différentes, en fait, entre le désir et la réalisation.
Non, pas, c'est pas tant les temporalités qui sont différentes que, on va dire, le projet en lui-même. On n'écrit pas de la même façon quand on écrit pour soi, quand on écrit des lettres, quand on écrit des journaux, quand on écrit des nouvelles, mais des choses qu'on garde pour soi ou ses proches, que quand, on va dire, c'est pas tout à fait la même ambition que quand on a envie de projeter quelque chose dans le monde vers les autres. Parce que bon, moi, en termes de temporalité, il s'avère que j'ai trouvé une maison d'édition assez rapidement après la fin du livre. Donc voilà, le délai est surtout long entre le moment où le manuscrit est terminé et le moment où il est publié, parce qu'il y a toutes les étapes de relecture, de fabrication du livre, et puis les temporalités, les saisonnalités liées à l'édition. Mais vraiment, ce qui pour moi a peut-être mis du temps, c'est ça, c'est le désir de vouloir faire passer quelque chose à des lectrices et des lecteurs. Puis bon, enfin voilà, c'est vrai qu'il est sorti, j'avais 33 ans, mais je pense que je l'ai commencé à 30. L'écriture prend longtemps aussi.
Alors, votre deuxième livre, hein, j'ai pas dit le second, j'ai dit le deuxième, Les Heures Abolies, ça s'appelle Les Heures Abolies, c'est publié aux magnifiques éditions La Contre-Allée, le mot est faible. L'éditeur ne dit rien, il dit pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est un roman ?
Oui, c'est, oui. C'est un roman. C'est un roman qui prend parfois des formes poétiques, mais oui, c'est un roman.
Si vous deviez justement présenter ce livre, Les Heures Abolies, comment le feriez-vous ?
Alors, je dirais que c'est l'histoire de l'immobilité après un long mouvement. C'est deux personnes, une narratrice et une personne qui l'accompagne, qui décident de passer un hiver ensemble dans la forêt boréale, pas très loin du cercle arctique, en Europe. Voilà, le pays n'est pas précisé. Et sont deux personnes qui s'aiment, mais la nuit va recouvrir peu à peu le paysage, la neige aussi. Et qu'est-ce qui se passe dans un chalet, loin de tout, entre deux personnes, quand tout se passe bien ? Dans quelle intériorité on plonge et qu'est-ce qui va se déployer quand le printemps surgit ?
Sachant que c'est la parole de la femme que vous nous faites entendre.
Oui.
Hein, c'est jamais la parole de l'homme. Hein.
Voilà. Alors, de l'homme ou d'ailleurs cette personne, on ne sait d'ailleurs pas si c'est un homme ou une femme le livre.
Pour moi, c'était un homme.
Voilà. Après, c'est vraiment justement à chacun de s'approprier ça comme il le veut et comme il le reçoit. Mais effectivement, tout est vécu du point de vue de la narratrice et vraiment de son intériorité, de son corps, son expérience sensorielle, intellectuelle, onirique, organique.
Alors, c'est un long périple. Hein. Le voyage qu'ils font, ça part... moi, j'ai du sud mais on évoque la Grèce, enfin on évoque plein d'endroits. Et ils vont, si c'est pas la Finlande, c'est la Norvège, et si c'est pas la Norvège, c'est la Suède. Enfin, quoi qu'il advienne, c'est là qu'ils vont.
Oui, voilà, effectivement, au début du livre, c'est des flashs de souvenirs de voyage le long de la Méditerranée. Alors, il y en a qui se passent en Albanie, d'autres en Grèce, il y a des fragments en Turquie aussi. Et puis, cette longue remontée qui va d'abord... à un moment s'arrêter le long du Rhône, quelque part à la confluence de la Saône et de la Drôme d'ailleurs et du Rhône, puis jusqu'à Berlin, Copenhague. Alors les villes ne sont pas du tout nommées, à part Berlin peut-être qu'on devine. Et effectivement, le pays dans lequel ces personnes arrivent, on va dire que c'est une superposition de la Norvège et de la Suède. Ce serait un peu une Suède avec des montagnes.
Alors, une voiture, une femme et quelqu'un d'autre, alors moi je dis que c'est un homme, qui vont, ils ont demandé à un ami de leur prêter un chalet, et pendant la nuit polaire, ce sont deux individualités à part entière. Elles ne sont pas assujetties l'une à l'autre. Est-ce que l'on peut parler d'amour entre eux ?
Oui, oui, et justement, c'était tout le propos du livre, c'était de montrer qu'il peut y avoir amour sans assujettissement. Je crois qu'il y a une phrase qui le dit d'ailleurs, être faire tribu sans pacte de reddition ni serment d'allégeance. Voilà, être deux sans heurts ni drames. Comment exister sans être la moitié de quelqu'un d'autre, être soi entier et voilà, être deux lignes qui vont être parallèles à un moment, parfois se frôler et puis se rééloigner quand l'envie de s'éloigner est nécessaire. Et c'était vraiment ce qui me tenait à cœur parce qu'on a souvent l'habitude de lire des histoires d'amour pleines de passions et de drames, alors que là, le début de l'histoire d'amour n'est pas relaté. On ne sait pas à quel moment la narratrice rencontre cette personne, on sait juste qu'à un moment du voyage, elle lui propose de l'accompagner pour cet hivernage dans le chalet de Sacha. Et on ne sait pas très bien ce qui pousse à dire oui, ce qui pousse à s'isoler ensemble, à part justement expérimenter le fait d'être deux individus côte à côte à un endroit où il n'y a plus rien d'autre.
Alors, on est dans le Grand Nord, la nuit va s'installer, on va revenir... à la manière dont ça se produit, mais la nuit va s'installer. La nature tient une place centrale dans le livre. Pour que le lecteur le comprenne, l'incipit du livre, c'est un extrait d'une chanson de Vashti Bunyan, « Where I like to stand ». Est-ce que c'est ce que fait votre personnage féminin, vouloir être là où elle est pleinement elle-même ?
Tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cet extrait de la chanson de Vashti Bunyan qui dit qu'elle se tient enfin là où elle a choisi d'être et qui est au bord de la mer. Donc ça ressemble un petit peu à l'endroit où se tient la narratrice. Et il s'avère que j'aime bien en plus l'histoire de Vashti Bunyan qui est une folkeuse anglaise des années 60, complètement hippie, qui avec son amoureux est parti dans un wagon à cheval qui a traversé toute l'Angleterre puis l'Écosse jusqu'à s'installer dans une ferme en Écosse. Et elle était avec sa guitare, elle composait des chansons et elle s'est installée en Écosse. Et je crois qu'elle y vit toujours. Alors, elle n'est plus dans une communauté, elle a changé de vie. Elle est toujours aussi hippie, par contre. Et elle a été redécouverte il y a une dizaine d'années comme un trésor de la folk. Et voilà, c'est vraiment tout le... Une grande partie du livre, c'est ça, c'est à trouver un endroit où on est pleinement, où on se déploie, où peut-être on a envie de revenir quand on en part, et en tout cas, enfin, s'inscrire dans un territoire et s'y déployer et se connecter à lui, se relier.
Alors, on va continuer cette conversation, mais je vous propose une deuxième pause musicale.
Janus au cœur, qui l'aurait cru qu'un jour meilleur serait venu, scindé les lianes de l'avenue, de mes emmerdes contre la lune. Bloqué au sol, j'arriverai par la rigole remplie de larmes. De nouvelles armes, j'essayerai d'en faire du sens, d'en faire du vrai. Et j'ai la flemme au ventre, alors ce soir je rentre sollicité par l'oreiller. Mais je m'en fous tellement, je jette un œil dedans. J'écoute un peu mieux, moi, moi. Je suis dans le vrai, eh, eh, eh. Ouais, je suis pas dans ta fête, tout seul en fait. Le vrai, eh, eh, eh. J'arrive après la sieste, moi ça me va les restes. T'inquiète.
Reste les phrases que tu lançais, bloquant les miennes sous mon palais.
Torse noué,
deux joues salées,
trouve l'oubli et ce silence. Ce qui m'effrayait, maintenant me pense de la rivière jusqu'à la mer.
Pourtant je manque de foi, d'oreilles sous les draps.
J'entends le soir sur la jetée et je me fais les dents sur tout ce que les gens pourrait bien dire de moi, moi. Je suis dans le vrai, eh, eh, eh. Moi je suis pas dans ta fête, tout seul en fait. Le vrai, eh, eh, eh. Moi j'en fais qu'à ma tête, tout seul en fait. Le vrai, eh, eh.
Écoutez, Chahut, drôle de nom d'artiste, qui a chanté Le Vrai, un chanteur que moi j'aime beaucoup et qui sort un tout nouvel album là. Vous écoutez Entre les pages, vous êtes sur Radio G, fréquence 101.5, et je rencontre aujourd'hui les résidents à la maison Julien Gracq et nous discutons en ce moment avec Lou Darsan autour de son roman « Les heures abolies ». Elle nous a parlé de ces deux personnages qui vont aller aux confins dans le froid, dans un chalet, dans le froid. Elle nous a dit que c'était la nature était quelque chose d'important. Mais moi, ce que j'aimerais maintenant, Lou Darsan, c'est vous entendre lire. Donc, je vous passe le micro.
Je te suis reconnaissante de ce grand hiver immobile à mes côtés et étonnée de penser que tu vas partir avant moi. Moi qui n'ai jamais su tenir en place après l'équinoxe, qui ressens le besoin d'exacerber l'été. Je suis celle qui quitte. La première à me lever et à tourner le dos, à affronter les départs et la route. Et pourtant, je sens jusque dans ma moelle la nécessité de demeurer immobile. Ici. Je ne suis pas prête à bouger, à retrouver l'asphalte brûlant. Le vol des pélicans, le sucre des oliviers de Bohême, la sueur qui coule sur les griffures et pique la peau me manque. Un creux dans la poitrine. Mais je veux goûter au printemps, puis à l'été des montagnes qui veillent le chalet. Me baigner au solstice dans le lac libéré de sa glace. Contempler les cétacés dans le golfe, grimper vers les crêtes entre les sorbiers et les saules dans un jour plus long que la plus longue nuit d'un hiver grec, m'enforester dans les épicéas en sachant le réveil des grands mammifères, sentir leur présence dans les bois, leur souffle dans mes rêves, J'ai envie de connaître le chalet pendant un cycle complet. Voir fleurir, fructifier, puis flétrir les myrtillers et les murs des marais. Être pour une fois pivot et non mouvement.
Merci. En fait, dans cet extrait, tout est dit. La relation à l'autre, la relation à la nature, les énergies de ce personnage féminin. Il y a un côté presque animiste chez cette femme.
Oui, tout à fait. Et en tout cas, il y a une relation à ce qu'on appelle la nature qui justement ne fait pas, essaye d'éviter le piège de la distinction nature-culture, qui essaye de se relier à ce qui est sauvage et qui l'entoure tout en sachant qu'elle n'appartient pas à ce sauvage et qu'il n'y a pas de sauvage qui ne soit contaminé par l'humain. Dans le moindre paysage traversé, on trouve que ça soit dans les Heures abolies ou dans l'Arrachée belle d'ailleurs, où la nature dans les deux livres est omniprésente. Mais à chaque fois, c'est des paysages où la trace de l'humain est toujours là. Ce sont des forêts qui sont entretenues par l'homme. La route n'est pas loin, la ville n'est pas loin. De l'autre côté du golfe, on voit les lumières. Et en même temps, la narratrice se sent reliée aussi bien aux oiseaux qu'elle observe, qu'aux roches sur lesquelles elle s'assoit, qu'à l'eau dans laquelle elle se baigne. Et à tout ce qu'elle ne voit pas également, c'est-à-dire là, souvent, avec la présence de la neige, il y a toute une poétique des traces, des empreintes de ce qui apparaît en creux, qu'on devine, qu'on ne voit pas, et tout ce qui apparaît dans ses rêves, et elle ne distingue pas non plus. Enfin, là, elle fait pas énormément de distinguo entre le réel qu'elle expérimente et les visions qu'elle a dans ses rêves. Et je pense qu'effectivement, on peut parler d'une forme d'animisme.
Même, moi, j'ai même le sentiment que ça va beaucoup plus loin. Parce que dans le dernier texte, un texte qui est d'ailleurs en vers libre, elle est arrivée à un tel point qu'on a l'impression qu'elle se suffit à elle-même.
Ah, c'est marrant.
Je ne sais pas si c'est marrant. Mais
de
en tout cas,
voir
c'est
ça comme
lu.
Ça, mais ouais, alors je ne sais pas si... Je pense qu'à la fois, elle se suffit à elle-même, dans le sens elle existe, et elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas besoin de...
Elle n'a plus besoin de
elle
rien.
Elle n'a plus besoin d'autres pour exister, et en même temps, elle décide de se relier aux humains qui l'entourent, à cette femme qu'elle a rencontrée, aux animaux, et ce texte est... se finit justement sur le fait de sortir les mots de son corps. Donc, je pense de son corps et pour les offrir aux autres. Hein, c'est la dernière phrase du livre. C'est je ne sais pas quelle est la partie de ton anatomie qui avale les mots. Et du coup, pour moi, c'est aussi la preuve qu'elle ne peut pas être sans être reliée justement à tout ce qui l'entoure et tout, voilà, humain ou non humain. Mmh.
Je ne l'avais pas lu tout à fait comme ça. Le livre est découpé en 4 chapitres aux noms étranges, estival, automnal, hiémal, vernal, qui sont des termes attachés à la botanique. Pourquoi ces termes-là plutôt que printemps, été, automne, hiver ?
Alors déjà, j'avoue que c'est un côté très esthétique. Ce sont des mots que j'aime bien. Et aussi, la nature étant tellement... omniprésente dans ce que j'écris, et puis d'autant plus dans ce livre, avec l'importance des saisons qui amènent un vrai changement, parce que l'hiver amène avec lui une nuit quasi complète, et le printemps, un retour de la lumière, une explosion. C'était vraiment pour moi important de marquer le rythme des saisons, ce cycle qui recommence et qu'elle traverse ou qu'il la traverse, en utilisant ces termes qui sont des beaux adjectifs, je trouve aussi.
Surprenant, parce que quand on lit le premier estival, on ne comprend pas trop où ça va aller. Quand on voit automnal, on se dit « Ah !» Quand on voyait mal, là, on est obligé de sortir son dictionnaire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai été obligé de sortir mon dictionnaire. Mais ce plaisir des mots que vous avez, puisque vous dites « Je les ai pris parce qu'ils sont beaux », On en retrouve un d'ailleurs dans l'extrait que vous avez lu. Vous avez utilisé alors le mot enforesté. Alors moi, ça m'a renvoyé à un très beau livre de Marielle Massé, qui a écrit Nos cabanes, et qui, elle, utilise les termes de déterrestré et enterrestré. Et on retrouve exactement la même utilisation que vous faites. On va vous inventer un mot, là, qui dit comment cette femme va aller au cœur, enfin, plus qu'au cœur de la nature, quoi, en fait. Hein.
Oui, c'est ça, comment elle va plonger dans la forêt et devenir forêt. Alors, je crois que je l'ai déjà lu quelque part, je ne saurais plus dire où, malheureusement, je pense que...
Non, gardez le cadeau que je vous fais, c'est de vous dire que vous l'avez inventé.
Voilà, mais c'est vrai que puis c'est comme voilà, le mot « s'encabaner » sont des beaux mots. Je pense que déjà, c'est assez important de s'offrir la liberté de renouveler une langue quand on écrit. C'est comme ça qu'elle continue à vivre. Et le français, avec tous ses préfixes et ses suffixes, nous offre cette liberté. Et puis, des fois, il n'y a pas de mots dans le dictionnaire qui suffisent pour justement dire ce désir de faire forêt, de devenir forêt, d'être forêt.
Et puis, il y a cette forme que vous avez choisie aussi. Il y a l'alternance d'une prose classique et puis des parties qui sont en vers libre. Ouais. Ces parties-là sont des poèmes ?
Oui, tout à fait. Mmh. Ce sont des poèmes. Voilà, ils ne sont pas séparés du reste du texte, qui est majoritairement en prose, même si on pourrait dire qu'il y a peut-être un rythme, une musicalité qu'apporte de la poésie dans la prose et que les poèmes, eux, sont en prose. Enfin, voilà, je pense que ce qui m'intéresse souvent dans l'écriture, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines, c'est la notion de porosité. Je pense que j'ai du mal avec la notion de frontière, que ce soit les frontières entre les États ou les frontières entre les genres. Je pense que les frontières entre le réel et l'invisible, je pense que voilà, on a des choses qui s'entremêlent, des réalités qui s'entremêlent. Et en mêlant la poésie et la prose, c'est ce que j'essaye vraiment de retranscrire, en fait. Voilà, cette idée que la réalité, parfois... une toile, voilà, avec les fils de trame, les fils de chaîne qui forment un tissu, tout comme la géographie s'en mêle, même s'il y a des barrières naturelles. On sait que les montagnes servent plus souvent de passage que de frontières, à part quand il y a des postes frontières et des douaniers, évidemment.
Votre éditeur, ce sont les éditions La Contralée. Alors, je le dis, hein, qui font un travail extraordinaire de la couverture jusqu'à la quatrième de couverture. Enfin, tout est soigné, c'est au millimètre. C'est un vrai bonheur de feuilleter ces livres-là. La couverture est magnifique de ce livre. Vous les avez rencontrés comment ? Parce que vous dites, oui, mon éditeur, ça s'est fait tout facilement, tout ça. Il a accepté mon texte et puis voilà. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec La Contralée, qui est une maison quand même assez exigeante, hein ?
Alors oui, facilement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'est fait de façon fluide et plutôt rapide, en effet. Alors, il s'avère que j'ai été libraire pendant longtemps et je vendais les livres de La Contralée, je les aimais beaucoup. Et voilà, c'est le monde du livre est assez petit, hein, et on se rencontre souvent dans les rencontres en librairie, dans les salons. Et puis voilà, c'est un éditeur dont j'ai toujours estimé le travail, hein, dès le tout début. Voilà, c'est une maison d'édition qui a un peu plus de 15 ans maintenant, qui est dans sa 15e année et qui publiait des essais, notamment sur la mafia en Italie, que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, j'ai aussi découvert via les textes de Thomas Giraud sur notamment le géographe Élisée Reclus. Et voilà, c'est vraiment une... Donc voilà, c'était... une maison d'édition que je connaissais et dont j'étais familière. Et effectivement, j'avais très envie d'être publiée par eux. Puis voilà, quand je leur ai proposé mon texte, la rencontre a été immédiate. Et voilà, on peut parler d'un coup de foudre réciproque.
Alors, les deux livres que vous avez publiés mettent en scène prioritairement, une femme. Une femme qui va de l'avant, qui va ailleurs, qui va loin. C'est quoi la préoccupation par rapport à cette femme qui va, en fait, qui avance?
Alors, je ne sais pas si je peux parler de préoccupation, mais oui, bon, alors déjà, ce sont majoritairement, oui, sont des, mes personnages principaux sont des femmes, effectivement. Bon, si j'étais un homme et que je mettais en place des livres avec des hommes, je ne suis pas sûre qu'on me poserait la question de qu'est-ce que c'est qu'être un homme et écrire sur des hommes. Du coup, c'est une question qui me fait toujours sourire. Et en même temps, c'est aussi parce que c'est une écriture du corps et que j'écris à partir de voilà, ma propre expérience corporelle, organique, sensorielle, qui est celui d'une, enfin voilà, qui est l'expérience d'une femme. Et je pense que peu importe mon genre, j'aurais eu envie d'écrire des histoires de mouvement. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Je suis moi-même régulièrement en mouvement. J'ai pas mal voyagé. J'ai écrit d'ailleurs en étant en mouvement, puisque mon premier livre, L'arrachée belle, a été écrit lors de voyages, et notamment pour revenir sur Farouk qui parlait juste avant moi, j'ai écrit un bon bout de mon premier roman quand j'étais en Bosnie, en montagne, puis je l'ai terminé en Grèce. Donc vraiment, le fait d'être une femme qui va, je pense, voilà, ça reflète aussi mon expérience du monde.
La question n'était pas par rapport au genre. Parce qu'effectivement, c'est la question de ce personnage qui est peut-être dans une quête, qui avance, et il y a quand même une grande proximité entre ces deux livres. Enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti. Hein. C'est quand même, voilà, c'était la question, c'est quoi ? Enfin, voilà, mais
oui.
Voilà.
Oui, la proximité, je pense que on peut les voir pas comme une suite l'un à l'autre, mais plutôt comme un diptyque ou un autre possible, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est dans une sorte de quotidien très figé, qui va s'en arracher pour se mettre en mouvement, et l'autre qui est en mouvement, qui décide de s'arrêter. C'est vraiment deux dynamiques qui se répondent, et pour l'une, le mouvement est un enfermement, et pour l'autre, c'est un apaisement. Mais voilà, je pense qu'on peut vraiment voir ça en miroir.
Et vous travaillez sur quoi là, vous êtes en résidence à la maison Julien Gracq. C'est quoi votre projet à la maison Julien Gracq?
Alors, c'est un projet que je mûris depuis un petit moment et auquel j'essaye de donner forme, qui est pour l'instant constitué de fragments, de recherches, qui sera quelque chose de très différent, a priori. Pas du tout lié au paysage ni à la nature, mais cette fois-ci vraiment lié aux violences faites aux femmes, voilà, basées sur des expériences, on va dire, vécues dans de femmes des années 20 à 50.
Voilà. Eh bien, je vous remercie de vous être plié à l'exercice de la conversation autour de vos livres. Entre les pages, c'est terminé. Merci Lou Darsan d'y avoir participé. Merci, merci. Farouk d'y avoir participé. Merci Amélie pour la traduction. Je vous remercie. Ce n'est pas un exercice très, très facile de faire de la traduction en live, mais vous avez relevé le défi haut la main. Vraiment, je vous remercie très, très sincèrement. Vous m'avez beaucoup aidé. Pour terminer donc cette émission, juste vous rappeler que ce soir à 19h à la librairie Contact à Angers, La Tête en Noir, le fanzine polar d'Angers, fête ses 40 ans, avec comme invité Marine Belliard, autrice, et Jeanne Guyon, éditrice aux éditions Rivage. Vu l'heure qu'il est là, à l'instant, il n'y a plus une minute à perdre. Hein. Et puis, vous annoncez la parution le 5 novembre prochain d'un étrange objet, un coffret intitulé « Fiche de Franz Kafka » avec des illustrations de Marc-Antoine Mathieu, l'invité de l'émission du 12 février dernier. Le podcast, d'ailleurs, est toujours disponible. Le coffret est publié par les éditions Nous, en collaboration avec La Muse, en circuit. C'est une nouvelle traduction du texte plus connu sous le nom de « Les aphorismes » de Tsurao. Il sera présenté le 6 novembre prochain à la Maison de la Poésie à Paris. J'en parle parce que Marc-Antoine Mathieu est un habitant d'Angers. Toujours dans le suivi des auteurs passés derrière les micros de Entre les pages, j'avais reçu le 22 mai dernier Chloé Thomas pour son très beau roman Fredon, paru chez POL, Fredon que je recommande à tout le monde. Elle disait travailler autour de Robert Merle. Eh bien, le résultat vient d'être publié par les presses universitaires de Nanterre et porte le lapidaire titre de Robert Merle, roman, et du mystérieux sous-titre Essai avec chimpanzé. Au cours de l'émission, vous avez entendu Teresa, interprétée par le groupe Murmure, et Le Vrai, chanté par Chahut. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 6 novembre à 17h avec une rencontre avec Catherine Mallard d'un côté et Patrice Véry de l'autre, qui chacun sortent cet automne leur nouveau roman. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI, puis vous retrouverez Pierre Benoît aux manettes du magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée, et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.